Bien, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui parler des carrières de granit du Mons Claudianus. Nous avons vu, il y a 15 jours, comment les Ptolémées ont exploité les richesses minières du désert oriental, à commencer par l'or. Et nous allons aujourd'hui examiner le cas des carrières ouvertes par les empereurs romains au Mons Claudianus. Cette revue des acquis et des problématiques nous donnera les outils pour interpréter une autre carrière de granit ouverte sur ordre de Domitien au lieu dit Umbalad que je présenterai le 8 décembre. Je rappelle en effet que la semaine prochaine, je donnerai cours à Oxford et donc je ne serai pas. Voyons donc les carrières du complexe du Mons Claudianus en commençant par les lieux et la géologie, ensuite un bref historique des recherches, puis je m'étendrai plus sur la chronologie et enfin je tenterai de détailler le fonctionnement de ce complexe de carrières. Commençons par la situation. Le Mons Claudianus est situé dans les hautes montagnes de la chaîne arabique, situé à la latitude de Safaga, à environ 120 km du Nil. Le Djebel Fatira, tout proche, s'élève à environ 2000 mètres d'altitude. Le gisement de granodiorite, exploité par les Romains, est situé, lui, à environ 700 mètres d'altitude et il s'étend sur 750 hectares où ont été ouverts des carrières. Alors ici, vous voyez sur cette diapositive un peu plus rapprochée l'emplacement du Mons Claudianus par rapport à Kéné, qui est une ville qui a été créée spécialement pour, disons, accueillir et exploiter les carrières, et par rapport à Safaga, qui est sur la mer Rouge. Et ici, dans une carte un peu plus rapprochée, vous voyez le massif avec les principaux points d'exploitation que nous reverrons plus en détail, c'est-à-dire le complexe lui-même du Mons Claudianus, un secteur qui s'appelle l'Hydrema, et ici le secteur du Wadi Baroud. Les carrières donc ont été largement prospectées par David Peacock, qui les a estimées à environ 130. Le gisement de granit s'étend au-delà du Mons Claudianus, et nous prendrons ici donc en compte aussi les carrières de Tiberiane dans le Wadi Baroud, donc ici, situé à 10 km au sud-est du fort principal du Mons Claudianus. Nous sommes en effet au cœur des montagnes cristallines formées de roches du Précambrien, qui donc ont entre 2 milliards d'années et 500 millions d'années, dans lesquelles se sont répandues vers 900 millions à 550 millions d'années des nappes de granodiorite en au moins deux phases, dites vieux granit et granit récent. Ce sont les granits anciens qui ont été exploités. Il présente un grain moyen équilibré entre les cristaux noirs et blancs, parfois patinés de brun. Le paysage est nu, mis à part quelques acacias et quelques plantes dans les fonds de Wadi, et donc l'exploitation du gisement ne présente pas de difficultés techniques causées par la végétation. Il en va bien entendu de la vie des hommes que l'aridité et la chaleur rendaient très difficiles. L'exploitation nécessitait donc une organisation très élaborée. Sur cette diapositive, vous voyez la photo satellite avec la route actuelle qui passe ici et les quatre points principaux que nous aurons examinés, le Wadi Oum Hussein, où est situé le complexe lui-même du Mons Claudianus, le site dit de Hydrema, le site dit de Wadi Oum Dikal et celui du Wadi Baroud. Le Mons Claudianus est connu depuis longtemps, en fait. Il a fait l'objet de plusieurs études. Brock l'avait visité en mars 1823, suivi immédiatement par Burton et John Garner Wilkinson, qui l'avaient suivi d'un mois après. Et ces derniers avaient découvert un hôtel qui donnait le nom de la carrière. Et donc, nous savons pertinemment, grâce à cette inscription, que nous sommes bien au Mons Claudianus. Wilkinson a dressé un premier plan conservé dans les archives de la Bodleian Library d'Oxford, que vous voyez ici, et dans un article intitulé « Note on the part of the Eastern Desert of Upper Egypt » paru dans le Journal of the Royal Geographic Society, en 1832, il décrit les monuments et son témoignage est resté irremplaçable sur bien des points car le site a été ensuite dégradé. Il avait entre autres noté, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, que le fort que l'on voit aujourd'hui totalement nu était en fait recouvert d'un enduit de terre et de chaux et donc présentait non pas un aspect de pierre apparente, mais d'ensemble recouvert de peinture blanche. Au cours du XIXe siècle, le site a été visité à plusieurs reprises par Lepsius vers 1850, par Schweinfurth à la fin du XIXe siècle, qui a été le premier qui a donné un aperçu des carrières elles-mêmes. Puis Baron Hume et Arthur Weigall ont à nouveau visité le site au début du XXe siècle, et l'épigraphie, surtout, a fait l'objet de nombreuses études, en commençant par le recueil des inscriptions grecques et latines de Lutron en 1842, puis du CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, et des études complémentaires, notamment au fur et à mesure des découvertes, des articles de David Meredith, parus dans le Journal of Egyptian Archaeology dans les années 1950, et ensuite un recueil final, si j'ose dire, qui faisait l'état de la situation, paru en 1977 par André Bernand, qui s'appelle « Pan du désert ». Mais du point de vue de l'étude archéologique, il faut attendre les années 1961 et 1964 pour qu'une équipe allemande dirigée par Krauss, Roeder et Müller-Werner effectue des prospections détaillées et un levé de plans très précis qui a concerné aussi le Mons Porphyrites et qui a été publié dans les Mitteilungen des Deutschen Institut Cairo en 1962 puis en 1967. Il y a deux articles qu'il faut consulter. Les événements politiques qui ont suivi, notamment la guerre entre l'Égypte et Israël, a rendu le site inaccessible aux recherches jusqu'en 1983. À partir de cette date, les pillages ont débuté, mettant au jour de grandes quantités d'ostraca et attirant l'attention de la communauté des chercheurs sur la nécessité d'organiser rapidement des recherches afin de sauver cette documentation en voie d'érosion rapide. Une équipe internationale comprenant des chercheurs français et belges, mais aussi néerlandais, britanniques et danois, s'est constituée et a débuté des fouilles à partir de 1987 sous la direction de Jean Bingen et d'Hélène Cuvigny. Les recherches ont duré de 1987 à 1993, soit sept campagnes hivernales qui ont produit une bonne connaissance de la topographie du site, de sa chronologie grâce aux fouilles dans plusieurs bâtiments et dans les dépotoirs. Et ces prospections et fouilles ont été réalisées et publiées par Jean Bingen, David Peacock, Valérie Maxfield, Jean-Michel Carrier, Claude Ban et Stott Jensen. Outre ces données archéologiques, une bonne compréhension de la chronologie et du fonctionnement du site est venue de la découverte et du déchiffrement d'environ 9000 textes écrits sur des tessons d'amphores que l'on appelle ostraca. Ce travail collectif a été réalisé par Adam Bülow-Jacobsen, qui a notamment publié les ostraca concernant les carrières, par Wilfried van Rengen et Walter Kockel, et surtout par Hélène Cuvigny, à qui l'on doit la publication de plusieurs textes essentiels qui donnent beaucoup d'informations sur le fonctionnement du site et aussi sur les rapports entre l'administration et les tailleurs de pierre, avec les ouvriers non spécialisés, avec les militaires, etc. L'état de conservation des vestiges mobiliers était excellent grâce à l'aridité du climat. Ainsi, il a été possible de recueillir, outre une énorme quantité de céramique étudiée par Roberta Tomber, que j'avais invité il y a deux ans, on a pu donc recueillir des textiles étudiés par Lise Bender-Jorgensen, de nombreux ossements et arêtes de poissons étudiés par Sheila Hamilton-Dyer, et les draines et les végétaux ont été aussi, bien sûr, récupérés, étudiés par Marik van der Veen les cordes et les paniers par Willeke Wenrick et les objets en cuir par Sue Winterbottom. Au total, l'ensemble des publications disponibles, alors ici vous voyez une photo de l'ostracone du Mons Claudianus, donc un des 9000 qui ont été étudiés. L'ensemble des publications donc disponibles permet d'appréhender les nombreuses facettes de cet énorme site qui, du fait de leur nombre, de ces publications sont relativement difficiles à synthétiser. Je m'y suis essayé, notamment pour essayer de mieux synthétiser la chronologie, mais pour les détails, bien entendu, je vous renvoie aux trois rapports, trois volumes disponibles et publiés sous la direction de David Peacock et Valérie Maxfield, qui s'appellent Survey and Excavations at Mons Claudianus 1987-1993, et dont un premier volume est paru en 1997, puis un deuxième volume en 2001 qui concerne principalement le résultat des fouilles elles-mêmes et un troisième volume, toujours sur le même titre, mais avec un sous-titre qui s'appelle Ceramic Vessels and Related Objects, qui a été publié donc à l'Institut d'archéologie orientale du Caire en 2006. Mais ce sont trois gros volumes qui sont parfois... de consultation un peu difficile. Un résumé commode, par contre, est donné par Valérie Maxfield dans un colloque qui est paru en 2001. Le colloque s'appelle « Economics Beyond Agriculture in the Classical World », publié par David Mattingly et Salmon. Et l'article s'appelle « Stone Carrying in the Eastern Desert with Particular Reference to Mons Claudianus and Mons Porphyritus ». Pour ce qui est de l'apport des textes, il faut se plonger dans la série des Ostraca, Graeca et Latina du Mons Claudianus. Plusieurs volumes sont parus. Le premier, sous la direction de Jean Bingen, avec tous les spécialistes qui étaient présents sur le site, Adam Bülow-Jacobsen, Walter Kockel, Len Cuvini, etc., qui est un recueil de dossiers, si on peut dire. Un deuxième volume, qui est lui-même un autre recueil de dossiers, a été publié en 1997. Puis, en 2000, Hélène Cuvini a publié un volume spécialement destiné au reçu pour avance à la familia, et nous verrons ce que ça signifie par la suite. Et enfin, en 2009, Adam Bülow-Jacobsen a publié The Quarry Text, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement technique des carrières. Et j'en ai fait un usage très intensif pour préparer ce cours. Donc, à la suite de ce rassemblement de documentation, j'ai établi, en suivant évidemment ce qui était écrit, une chronologie qui, par certains côtés, diffère un peu, en tout cas synthétise ce qui a été écrit dans ces ouvrages. Et avant donc d'aborder le fonctionnement des carrières, je voudrais que l'on fasse le point de la chronologie des bâtiments. Quatre groupes de bâtiments sont situés dans la zone du Mons Claudianus, comme je l'ai dit d'entrée. Le fort et les installations annexes au Wadi Humusein, ici. Un complexe qui est traditionnellement appelé Hydrema, à la suite du travail de Schweinfurth en 1897, parce que Schweinfurth avait trouvé une citerne, mais évidemment, à l'époque, on ne savait pas que Hydrema ne signifiait pas citerne, mais signifiait en fait puits. La citerne, c'est le lacus ou le lacos, mais la dénomination est restée depuis, on continue à appeler ce site l'Hydrema, alors que ce n'est pas un Hydrema. L'Hydrema était en fait au Wadi Umdikal, ici, où se trouvait réellement le puits. Et le Wadi Umdikal, qui est situé à 3 km au sud-ouest du fort principal, et ensuite, il faut intégrer dans le système le Wadi Baroud, qui est à 10 km au sud-est. Leur chronologie de ces divers sites se recoupe en partie, mais leurs périodes de fondation et de fonctionnement ne sont pas toujours identiques, comme nous allons le voir. J'ai synthétisé l'ensemble des données en 9 phases. La première phase correspond au règne de Tibère. Nous avons vu, à propos du mont Sophiatès et aussi du mont Porphyrites dans mon cours introductif, que la fin du règne d'Auguste et le règne de Tibère ont été marquées par d'intenses prospections dans le désert à la recherche de ressources minières et de pierres colorées. Un passage de Pline dans l'Histoire naturelle, au livre 36, paragraphe 55-56, mentionne le marmore augusteum et le marmore tibéréum, le premier ayant des veines ondées en forme de tourbillon, et celui de Tibère a des veines blanches disséminées et non pas ondées. Cette description aurait été insuffisante pour reconnaître le granito bianco e nero des tailleurs de pierre de Rome. Mais la découverte d'ostraca, à la fois dans le fort du Mont Spludenus et dans celui de Baroud, assure que le fort de Baroud s'appelait Tibériané et donc que ce granit particulier était le marmore tibéréo. Les fouilles et prospections de David Peacock et Valérie Maxfield sont assez décevantes sur ce point, car dans leur publication parue dans le volume 1, c'est-à-dire en 1997, ils ne consacrent que très peu de place à ce site qui pourtant marque les débuts de l'exploitation dans ce secteur. Le fort lui-même, que vous voyez sur cette photo, est assez bien conservé. Il dessine un losange de 35 mètres de côté environ. Les angles sont renforcés par des tours circulaires et la porte est défendue par 2 tours semi-circulaires. Mais il est clair, en voyant le plan publié, que ces tours ont été ajoutées dans un second temps. L'intérieur du fort est très densément bâti et l'irrégularité du plan montre qu'il y a eu plusieurs ajouts et donc une intense activité. En entrant à droite, on trouve une citerne, donc ici où il y a écrit tank, et que vous voyez aussi sur cette photo. La plupart des autres pièces sont des logements. Les reconnaissances dans le fort n'ont pas donné d'éléments anciens et un sondage de 3 mètres par 3 mètres effectué dans le dépotoir qui était devant le fort a livré uniquement des ostracas et de la céramique de l'époque d'Antonin le Pieux vers 146 après Jésus-Christ. Peacock et Maxfield écrivent que le plan évoque celui du mont Sclodianus et qu'il a probablement eu le même architecte, ce qui le daterait de Domitien ou de Trajan. Rien ne me paraît moins sûr. D'une part, on ne peut pas se fonder sur les données du dépotoir, le sondage est trop limité et l'expérience que nous avons des dépotoirs que nous avons fouillés ailleurs montre que les rejets massifs de l'époque antonine peuvent masquer des dépôts plus anciens. D'autre part, le nettoyage périodique des logements laisse aucune chance de trouver du mobilier de l'époque de Tibère ou de Claude sur les sols. Nous avons vu par ailleurs que le fort a été occupé longtemps, puisqu'on a ajouté des tours dans un second temps et qu'il y a des réfections à l'intérieur, et il me paraît donc possible que le noyau habitatif, probablement peu fortifié et analogue à celui du Wadi Umvikala, que nous avons vu dans le premier cours, ce noyau habitatif remonte au début du 1er siècle. Les objets et les ostracas du milieu du 2e siècle dateraient seulement de l'ultime phase d'exploitation des carrières. Seule une nouvelle campagne de fouilles permettrait de vérifier cette hypothèse, car je rappelle que les collègues anglais n'y ont fait que des sondages très limités. Les carrières elles-mêmes sont situées à environ 500 mètres du fort. Elles sont au nombre de 3, et comprennent un complexe bas présentant un front de taille de 30 mètres environ, associé à deux cabanes qui montrent un fort volume d'extraction, et des deux complexes hauts que vous voyez ici, par exemple, là, et qui ont été exploités à l'aide de rampes pour descendre les blocs. Le granit qui était extrait de ces carrières, dont nous l'avons vu, blanc avec de gros cristaux noirs, a été utilisé pour les monuments impériaux, notamment au Palatin, en particulier dans le pavement de la Domus Tiberiana, qui assure la datation des débuts de l'extraction. Ensuite, on la trouve à Pompéi et Herculanum, on trouve cette pierre surtout débitée en plaquettes, et puis à la Villa Adriana, à Tivoli, ce qui montre donc une continuité d'exploitation qui est également témoignée par les ostracas et la céramique du IIe siècle trouvés sur le site. Comme on le voit, on en tirait surtout des plaquages pour les pavements et de petites colonnes dont on trouve des remplois dans des églises de Rome, par exemple Santa Saba, ou à San Marco, à Venise, donc des remplois du Moyen-Âge de blocs qui ont été récupérés dans des monuments de Rome. La deuxième grande phase doit commencer sous Claude. En effet, le nom même de la carrière fait référence à cet empereur. Le granodiorite exploité alors est plus clair, comme vous le voyez, à grain plus fin que celui de Tiberiane ou Wadi Barut. C'est celui que les marbriers italiens appellent granito del foro, car il a été beaucoup utilisé dans le forum de Trajan, comme nous le verrons. Aucun ostracone datant de Claude n'a été trouvé, mais les vestiges situés sous le site appelé Hydrema pourraient remonter à cette période. Il livre en effet de la céramique du 1er siècle, et un ostracone daté de 68 après Jésus-Christ y a été trouvé. L'Hydromain est en fait un village de carriers qui est situé au confluent d'un talweg au flanc de la montagne et d'un wadi affluent. Alors vous voyez le wadi principal qui permet d'aller dans le Wadi Umdikal et ensuite dans le Wadi Humsein qui est au-dessus. Et là, il y a un petit wadi affluent et le village est donc établi dans ce secteur. Il y a d'abord un village de carriers que vous voyez ici, puis se surimposera sur cet ensemble, nous le verrons par la suite, une forteresse, mais à une époque un peu plus tardive. Une grande tour à deux étages est implantée au-dessus de l'Hydrema. Ce serait la tour de guet principale qui est appelée dans les ostracas le Skopelos. Le site de l'Hydrema, que vous voyez sur cette photo que j'avais prise en 1993, vous voyez ici, donc le Wadi Humsein est ici avec le fort principal que vous distinguez, le Wadi qui permet d'aller au Wadi Umdikal et le village de Carrier ici et la forteresse ici. Le site de l'Hydrema donc a fait l'objet de sondages de la part de Jean-Michel Carrier en 1993 et celui-ci a pu déterminer deux grandes phases d'occupation dont la première est bien datée du 1er siècle de notre ère. À cette époque, les cabanes sont construites et des deux côtés du Wadi, notamment ici, et les cabanes qui sont situées sur le versant est seront par la suite recouvertes par un dépotoir et qui permet donc de les sceller. Dans la partie nord ici, un petit dépotoir a livré un ostracone qui porte le numéro d'inventaire H44 et qui est daté de Phaménot de l'an 14 de Néron, c'est-à-dire donc de 68 après Jésus-Christ. Comme la couche dans laquelle cet ostracone a été trouvé est postérieure à une destruction partielle des maisons, cela implique qu'elles sont antérieures à 68 et peut-être donc du règne de Claude ou de Néron. Il s'agit en fait de cabanes dont la dimension ne dépasse pas 4,80 m sur 3,40 m environ, quelques-unes ayant un foyer. Celles qui ont été fouillées dans la partie est du site, que vous voyez là, vous voyez un plan plus détaillé, vous voyez, sont relativement sommaires. Et il semble que la zone ait été occupée en permanence durant le 1er siècle, jusque sous Vespasien et Domitien, donnant lieu à la formation de deux dépotoirs qui contenaient des tissus et des cordages, des céramiques à parois fines d'Assouan, des céramiques, des imitations de sigillés faites en Égypte et une monnaie de Domitien frappée en 82 après Jésus-Christ. Malgré ces données qui semblent assez claires, Jean-Michel Carrier envisage une fondation du village de Carrier encore plus ancienne, remontant à Tibère et donc contemporaine du site de Baroud. Mais aucun argument archéologique ne soutient cette idée et je pense qu'il faut plutôt s'en tenir à la logique de la toponymie et de la stratigraphie et fixer l'ouverture des carrières en ce point sous le règne de Claude. L'eau nécessaire au fonctionnement de ce premier village devait être tirée du puits du Wadi Humdikal qui pourrait donc dater de cette période ou peut-être d'une époque légèrement antérieure, de celle de Tibère, si le puits servait d'étape lors du transport des blocs de Tibériané vers la vallée du Nil. C'est à l'époque de Néron, en fait, que remontent les premières attestations de l'emploi du granit du mont Scludianus, donc le granit del Foro, dans la Domus Transitoria, qui est le premier palais de Néron à Rome avant l'incendie de Rome. Et ensuite, la pierre sera utilisée, bien sûr, dans la maison dorée qu'il construira par la suite. Nous arrivons maintenant à une troisième phase qui prend place peut-être déjà durant le règne de Vespasien et certainement au début de celui de Domitien. C'est alors que la force de travail est dépassée de 1 km vers le nord-est dans le Wadi Umm Hussein, où un nouvel habitat est installé autour d'un nouveau puits qui semble creusé à cette période. Donc, vous voyez, on part du village de Carrier qui est situé ici et on se déplace donc d'un kilomètre et on s'installe dans ce secteur-là qui est beaucoup plus proche d'un gros gisement de granodiorite qui est ici, qui sera exploité par la suite. Alors, voici une vue satellite de cet ensemble qui comprend un grand fort, un temple, des écuries et tout un ensemble de carrières avec des rampes qui permettent d'y accéder. Ici, une vue un peu plus rapprochée par un satellite. Donc, à cette époque-là, on construit un puits, et les bâtiments de l'époque de Domitien sont situés autour de ce puits, ce qui implique donc que le puits existait à cette époque, et évidemment, il était presque absolument nécessaire. Donc, vous voyez ici l'emplacement du puits et les bâtiments qui datent de la période de Domitien. Par ailleurs, les déblais du puits ont été rejetés au nord, et puis ensuite recouvert par un dépotoir contenant des tessons et des ostracas. Une tranchée effectuée par les fouilleurs, qui mesure environ 15 mètres de longueur, a montré à la base de la poudre granite qui correspond au creusement. Les niveaux les plus anciens sont très cendreux et ont livré de nombreux ostracas de la période de Trajan, notamment des documents qui donnent l'ordre de remplir des outres. Les bâtiments de cette période sont situés en partie sous le fort, qui sera construit ensuite, c'est-à-dire dans ce secteur-là, et sous ses abords, aux abords du fort, au nord et à l'ouest. Dans l'angle nord-est du fort, un bassin, une forge et quelques tronçons de murs sont antérieurs au rempart. Dans la partie sud du fort, Il n'y a pas de traces de construction antérieure à celui-ci, mais des tranchées destinées à prélever du sable pour les constructions qui sont alors effectuées. Au nord du fort, dans ce qui sera ensuite à l'extérieur, le bloc ici des pièces T1 à T5 semble antérieur au fort, puis a été inclus, nous le verrons, dans une annexe qui a été construite vers le milieu du IIe siècle. Au nord du fort et à l'est, des constructions ont été démolies par le temple de Sérapis sous Trajan. Ce sont ces constructions que l'on voit là. À l'ouest du fort, ce que l'on appelle le North East Building A et les bâtiments retrouvés sous les écuries, écuries que les Anglais appellent Animal Lines, sont contemporains, donc ces bâtiments sont contemporains des autres constructions et donc antérieurs au fort. Pour l'essentiel, on le voit, il s'agit d'habitations dont le tissu n'est pas régulier et il ne semble pas qu'il y ait de fortifications au cours de cette période qui couvre certainement le début du règne de Domitien, mais probablement déjà le règne de Vespasien, au moins en partie, et qui s'interrompt, en fait, vers le milieu du règne de Domitien. S'interrompt avec une quatrième phase qui marque un changement majeur. Changement majeur qui correspond à la construction du grand fort du Wadi Oum Hussein en 85-86 après Jésus-Christ. Nous verrons qu'il y a un peu des discussions sur la date, mais j'expliquerai pourquoi. La construction de ce fort a dû être nécessitée par l'insécurité grandissante de la zone que nous avons constatée l'année précédente et l'année antérieure à l'occasion de l'évocation de la construction des forteresses qui ont été faites à ce moment-là sur les routes de Myosormos et de Bérénice, principalement sous Vespasien et ensuite sous Trajan. D'ailleurs, l'Ostracon au Claude 851, qui a été écrit sous Antonin le Pieux, parlera du « ton phobon, ton barbaron », c'est-à-dire la peur des barbares. Et effectivement, on sent monter vers la fin du 1er siècle cette phase où la pression des nomades du désert se fait plus forte. Il est donc nécessaire de fortifier des établissements qui jusqu'alors étaient non fortifiés et consistaient principalement en villages de carriers. Le fort mesure 70 mètres du nord au sud et 75 mètres d'est à l'ouest. Et il est composé de deux ensembles. Le fort lui-même centré sur une porte ouvrant à l'ouest et une annexe accolée au rempart primitif dans la partie nord. Alors, vous voyez ici le fort, les animal lines, c'est-à-dire les écuries qui sont construites après, les greniers qui sont ici, et l'annexe qui se développe dans ce secteur-là. Cette annexe est une adjonction, mais il est évident qu'elle était prévue dès le départ, car les fondations du rempart du fort se prolongent dans ce qui deviendra l'annexe, dont la construction elle-même fut différée jusqu'au milieu du IIe siècle. Les remparts dessinent donc un rectangle allongé, auquel est accolé un autre rectangle. Dans la phase initiale, le fort ne comportait pas de tours qui ont été ajoutées par la suite, exception faite des tours d'angle semi-circulaires encadrant la porte. À l'intérieur du fort, on distingue une grande diversité et une grande densité de constructions réparties de part et d'autre d'une allée centrale est-ouest qui part de la porte pour aboutir à un édifice tripartite. Alors voici le fort tel qu'il est dans sa phase primitive, sans les tours d'angle, avec uniquement les deux tours défendant la porte à l'entrée, et l'allée centrale qui conduit à ce bâtiment qui est divisé en trois pièces et qui est certainement un temple, probablement pour trois divinités principales. Les fouilleurs ont considéré que la complexité de l'intérieur, des constructions qui sont situées à l'intérieur, en l'absence d'une fouille complète, rendait pratiquement impossible un phasage précis de l'intérieur du fort. Mais certaines structures paraissent remonter à la fondation. Contre le mur méridional, on voit ici une série de pièces qui pourraient être occupées par des soldats, car elles sont du type arma papillo que nous avons vu à plusieurs reprises dans les forteresses fouillées sur les routes de Bérénice et du Mont et de Myosormos. À gauche, en entrant, ici, et sur la photo que vous voyez là, se trouvait une grande pièce avec un pilier central qui est un oreum, c'est-à-dire un grenier à blé, le premier qui a été construit certainement bien avant le grand grenier qui sera construit au IIe siècle. Certains blocs, comme le bloc M, que vous voyez ici dans la partie centrale du fort à gauche, ont peut-être été, dès le départ, des pièces réservées à des officiels avec une fonction plus prestigieuse, et ils seront en partie décorés au cours du IIe siècle par des peintures. Et vous voyez ici un exemple d'une de ces peintures qui est encore en partie conservée. Les pièces S8 et 9 avec des banquettes qui sont situées ici pourraient être réservées à des militaires. Quant au bâtiment J, qui est assez intriguant, qui est situé ici, les auteurs de la publication l'interprètent comme une salle à banquet, un triclinium. Effectivement, il y a trois banquettes qui ont fait le tour. Mais cette interprétation me paraît improbable vu les dimensions de la pièce. Je me demande si, à l'instar des dortoirs que nous avons vus il y a 15 jours à Samout Nord, cette pièce n'aurait pas servi de logement pour la main-d'œuvre sous contrainte ou pour les membres de la familia caesaris ou pour toute personne de rang inférieur qui aurait été en quelque sorte entassée dans cette pièce. La présence de deux petites pièces de part et d'autre de l'entrée, ici et là, pourrait être celle des gardiens, en tout cas des personnels qui étaient chargés de contrôler les entrées et sorties de cette pièce. C'est une question qui n'a pas été véritablement traitée dans la publication, et d'ailleurs la pièce elle-même n'a pas été fouillée, seulement prospectée. Le reste des pièces, c'est-à-dire tout ce que nous voyons ici et là, sont ce que l'on appelle des kelaï, qui sont très clairement mentionnés dans l'Ostracon Auclode inventaire 1538, daté vers 110. Et il s'agit de logements où habitaient 5 ou 6 ouvriers des carrières, ces ouvriers que les Ostracas nomment les pagani. Le terme vient du latin et correspond, le terme de Kelaï vient du latin et correspond à la cellule de base d'habitation, notamment pour les esclaves, comme l'indique Caton, par exemple, dans son ouvrage sur l'agriculture, au paragraphe 14. Dans la partie sud-est du fort, se trouvait à l'origine, vous voyez ici, dans la partie sud-est, dans l'angle sud-est, se trouvait à l'origine un escalier qui donnait accès aux remparts, et aussi des latrines assez vastes, mesurant 7 mètres par 4 environ, situées au-dessus du sol, comme vous voyez sur la photo, et dotées d'un canal rectangulaire traversant le mur est et évacuant les eaux usées et les matières fécales. Et donc, un fort construit avec un assez grand soin et quelques aménagements, disons, d'hygiène, si on peut dire. La question de la datation est directement liée à celle des fouilles de la porte qui ont été effectuées en 1992 et ces fouilles qui ont donné des éléments décisifs. La porte est limitée par 2 pieds droits en granit, vous voyez ici, laissant un passage d'environ 2,60 m encadré par 2 bastions semi-circulaires dans leur première phase, qui ont été ensuite élargis dans un second temps à environ 2 mètres de diamètre. Parmi les débris de la porte, ont été trouvés les restes d'une inscription monumentale mentionnant Domitien, dont le nom est effacé et qui est daté de 85-86 après Jésus-Christ. L'inscription a été publiée par Jean Bingen en 1992. Elle mesure 75 cm de long par 34 cm de haut et 18 cm d'épaisseur. À la différence de Bingen et Jensen, qui ont rendu compte de cette découverte dans un rapport préliminaire sur la campagne de fouilles paru dans le bulletin d'archéologie orientale en 1992, Bingen et Jensen pensaient que l'inscription était située dans un bâtiment voisin, et pensaient au bâtiment qui est qualifié dans les publications de bâtiment du North East Corner. Donc, à la différence de Bingen et Jensen, David Peacock, dans la publication de 2001, écrit, page 20-21, que les fragments de l'inscription ayant été trouvés dans l'effondrement de la porte, il est raisonnable de penser, en l'absence d'indices contraires, qu'elle vient bien de celle-ci. Toutefois, la publication de Peacock oscille entre deux dates. Et je le cite. « The assumption that the extant fort is a Trianic foundation opens up the whole question of the nature and extent of the original Domitianic occupation of the site. » Et donc, Peacock avance l'hypothèse que l'inscription avait été cassée volontairement et remployée dans le blocage. Et il écrit « That being so, a Trajanic is more possible than a Domitianic date for the construction of the extant fort wall. On the other hand, the location of the inscription in the collapse from above the gate rather than the building opposite makes it hard to reconcile the two lines of argument. » Donc il hésite entre les deux dates, la date donnée par l'inscription, trouvée dans les ruines de la porte, et une date un peu postérieure qui, si j'ose dire, l'arrange mieux, car ça correspondrait mieux à l'idée qu'il se fait de la stratigraphie du fort et de sa relation avec les ostracas de l'époque trajanienne. Mais le fait que l'inscription ait été trouvée en fragments dans la couche d'effondrement de la porte, ce qui semble quand même assez clair, et le fait que le nom de l'empereur ait été effacé montre, à mon avis, que l'inscription est bien restée in situ et visible jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où le fort a été abandonné. Je ne vois pas pourquoi, si le fort avait été construit sous Trajan, on aurait effacé le nom de Domitien. Il aurait simplement, si l'inscription traînait quelque part sur le site, on l'aurait cassé et effectivement utilisé dans un remblai ou dans une construction sans se préoccuper d'effacer le nom de l'empereur. D'ailleurs, dans le dernier volume que Peacock et Maxfield ont publié en 2006, à la page 23 de l'introduction, ils donnent un bref résumé de la chronologie et ils reviennent quand même sur cette idée en disant que le foundation and main complex is dated by the inscription of AD 85-86, retrouvé en fragments dans la ruine de la porte. D'où on déduit que les auteurs se sont finalement ralliés à l'évidence. Le fort est daté de 85-86. Et donc, je crois qu'il faut ajouter, c'est pour ça que j'ai modifié leur planche, je crois qu'il faut ajouter sur leur plan le fort pour la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et donc restituer à Domitien, malgré la damnation mémoriée, peut-être à cause de la damnation mémoriée, la construction de ce fort, ce qui rend à Domitien son rôle de grand constructeur dans le désert, puisque nous verrons que le fort de Domitianée est lui-même construit à la même période. Le fait qu'il est souligné dans la publication qu'il n'y ait pas de poterie, ni surtout d'ostraca de la fin du règne de Domitien, n'infirme en rien cette datation. Je crois que ça signifie seulement que les déchets ont dû être jetés ailleurs, dans un lieu qui n'a pas été fouillé. Donc ça montre qu'il y a une forte période d'activité des carrières à l'époque de Domitien, et qui est évidemment liée à l'utilisation du granit du mont Scaurus dans les monuments de Rome et principalement dans les colonnes de la Domus Flavia, le palais de Domitien à Rome, et que vous voyez ici. Bon, là, c'est une des nombreuses photos du palais de Domitien. Et vous voyez ici les colonnes du mont Scaurus qui sont en fragments, puisqu'elles ont été débitées pour ensuite faire des plaquages ou faire des constructions dans la Rome médiévale et dans la Rome baroque. Un papyrus, qui est le papyrus Michigan 6767, daté du 26 janvier 96, mentionne l'envoi de blé depuis le nome Arsinoïte, c'est-à-dire le Fayoum, je cite, pour les militaires et les carriers de la région de la mer Rouge, ce qui indique donc que l'administration se préoccupe du ravitaillement, probablement dans une période de pic d'activité à ce moment-là. Et on voit donc qu'entre 85 et l'époque de Trajan, l'activité est très importante dans les carrières du mont Scaurus et elle s'étendra aussi évidemment dans celle du mont Porphyritès de Domitien. Ceci nous amène à la cinquième phase. La cinquième phase est marquée par la poursuite de cette grande activité dans les carrières sous le règne de Trajan et au début du règne d'Adrien. Les auteurs de la publication, aussi bien les papyrologues que les archéologues, ont noté l'absence d'ostraca entre août 111 et novembre 114, ce qui a été parfois mis sur le compte d'un possible abandon du site. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un hasard. Peut-être qu'on n'a simplement pas découvert l'endroit où on a jeté les ordures dans cette période, et je pense qu'on n'a pas tellement d'arguments pour dire que l'activité cesse dans cette période. Je pense qu'elle a dû être en plus ou moins continue jusqu'en 154 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, une partie des bâtiments date du règne de Trajan et une autre mal définie peut être attribuée à Adrien, qui a poursuivi l'exploitation pour construire divers monuments, dont la fameuse Villa Adriana de Tivoli. Dans le fort, on ne connaît pas précisément la date de tous les travaux qui ont été réalisés. Mais il est certain qu'une citerne a été alors construite dans la pièce S1. La date en est en effet donnée. Alors vous voyez ici une photo de la citerne avec le pilier qui supportait la toiture. La date en est en effet donnée par une inscription qui indique que se trouve là la Traianus Dacicus Fons Abundans Aquae Filicis, ce qui est quelque peu emphatique pour une simple citerne. Et l'inscription grecque que vous voyez sur le côté, c'est-à-dire Traianon Lacon, est beaucoup plus juste, puisque le Lacos désigne en fait la citerne et l'inscription latine, donc indiquant qu'on a une abondante eau, est peut-être un peu exagéré. Le fait que Trajan porte le titre de Dacicus, qu'il obtient en 102, et non pas celui d'Optimus Princeps, qu'il reçoit en 104, donne donc la date assez précise entre 102 et 104. Bien des remaniements mineurs ont été aussi réalisés au cours de cette période dans le fort, notamment dans le secteur des latrines et dans le bloc M, mais je ne m'y attarde pas. À cette époque, c'est-à-dire au début du règne de Trajan et sous Adrien, les déchets sont portés au sud de la porte aux abords d'un bâtiment sud et puis dans les pièces abandonnées. Vous voyez ici l'emplacement de ces bâtiments sud qui seront peu à peu recouverts de déchets. Lors de cette phase, le bâtiment sud est composé de blocs irréguliers et de pièces de diverses dimensions qui contiennent parfois des jarres et des bassins. Le plus ancien ostracone lié à cette phase est daté de 106, d'autres datent de 109 à 111 et sont associés notamment avec les archives concernant Héraclides, qui est l'architecte présent sur le site entre 113 et 117. À l'ouest du fort, c'est-à-dire dans cette partie qui est ici, ou plus exactement au nord-ouest du fort, s'étend une sorte de faubourg, si on peut dire, qui couvre 3500 mètres carrés et qui comprend un complexe thermal bien conservé et des pièces d'habitation et de réception qui n'ont pas été fouillées, mais seulement prospectées. Ces bâtiments annexes, du fait de l'absence de fouilles, ne sont pas datés précisément. Mais les fouilleurs présument qu'ils sont attribuables à la phase d'activité maximale des carrières sous Trajan et Hadrien. En fait, la mention de Xéna et du Centurion dans un ostracone datable vers 110 après Jésus-Christ montre que ces bâtiments remontent bien à Trajan. Le complexe de réception comprend une cour A, ici, sur laquelle ouvre une grande salle B et qui devait être peut-être une salle d'audience et deux petites salles C et D qui sont peut-être des bureaux. En effet, des ostracas qui ont été jetés dans ce complexe après son abandon et comportent des documents relatifs à l'organisation du transport, ce qui suggère que des bureaux devaient se trouver à proximité. Au sud du complexe de réception, qui comprend également des pièces d'habitation, se trouve un ensemble thermal. Les thermes, comme habituellement, comportent un apoditerium K avec un bassin en pierre, un frigidarium dans cette pièce E qui est ici, avec deux baignoires froides et une suite de pièces chaudes, un tepidarium G avec une abside et un labrum, et un caldarium doté d'une baignoire chaude que vous voyez ici. À l'arrière se trouvait le praefornium J, qui évidemment chauffait ses pièces chaudes ainsi que des pièces de service. Nous voyons ici le tepidarium qui est très bien conservé avec encore ses enduits et l'emplacement d'une abside avec un labrum, et ici le caldarium avec le sol chauffé par un hypocauste. La dimension des thermes dépasse l'usage d'un seul homme et il est donc probable qu'elles avaient aussi une fonction communautaire, en tout cas pour la frange supérieure de la population du Mons Cudenus, c'est-à-dire pour les officiers et pour les personnages en charge de l'administration du fort, et peut-être aussi pour les soldats. Plutôt que la résidence du commandant, ce seraient donc des habitations, tout cet ensemble correspondrait à des habitations réservées à des visiteurs de marque, tels que le centurion ou le procurateur. En effet, l'ostracone au Claude, inventé en 1538, que nous verrons en détail tout à l'heure, qui est l'organigramme de distribution de l'eau, mentionne donc probablement cet espace comme les xénailles du centurion. Le terme est l'équivalent des hospitia où l'on loge les personnages officiels, notamment les fonctionnaires en tournée d'inspection. Selon Hélène Cuvigny, le périel Xénaï indique que le centurion disposait de plusieurs pièces et probablement des bains, ce que nous avons vu, qui est donc une aménité fondamentale après un voyage dans le désert. Enfin, c'est à la phase de Trajan, donc toujours à cette cinquième phase, qu'il faut attribuer la construction du temple de Sérapis qui domine le site, au nord-ouest du fort. La situation des vestiges est assez complexe, car un premier temple à l'architecture ambitieuse n'a pas été terminé. Donc, sur cette photo, vous voyez donc, d'une part l'emplacement sur une hauteur dominant le fort, et ici un escalier monumental qui conduisait à la cella du temple. Le temple a été fouillé par Jean-Michel Carrier, qui en a donné une synthèse claire en 2001. Il distingue une première phase, au début du règne de Trajan, qui voit la construction de la cella, c'est-à-dire ici, précédée d'une salle d'entrée, la cour L, et d'un parvis marqué par des bases de colonnes. Un autel dédié à Sérapis, en l'an 12 de Trajan, c'est-à-dire en 108-109 après Jésus-Christ, par le préfet Sulpicius Similis, date de cette première phase. Une autre inscription, Ipan 38, donc de l'inventaire d'André Bernand, les inscriptions de Pan, dont numéro 38, est dédiée à Zeus Helios, grand Sérapis. Un second autel, au numéro 39, trouvé dans la cour L, donc ici, fut dédié par Annius Rufus, centurion de la 15e Légion Apollinaris, qui fut stationné, la Légion qui fut stationnée en Pannonie supérieure jusqu'en 114, puis en Cappadoce. La mention de Trajan Optimus Maximus permet de dater l'autel entre 114 et 117. Nous sommes donc dans le cœur du règne de Trajan. Le grand temple prévu n'aurait pas été terminé selon Carrier, car les colonnes de façade qui auraient dû être descendues des carrières qui étaient situées au-dessus, n'ont pas pu être apportées tout simplement parce que le site est trop en hauteur par rapport aux carrières. Donc il aurait fallu apporter des colonnes depuis la partie ouest, mais la présence des constructions P et Q, c'est-à-dire de cet ensemble-là, aurait empêché le transport des colonnes. Quoi qu'il en soit, lors d'une phase 2, les salles P et Q, puis B et G, c'est-à-dire cet ensemble-là, fut construit dans la partie ouest, bloquant en quelque sorte le passage, sous l'ordre d'Épaphroditos, que nous retrouverons par ailleurs, qui était un esclave impérial, adjudicataire des carrières, qui a fait une dédicace à Sérapis et à ses parèdres, le 23 avril 118. L'inscription indique que le temple et ce qui est attenant au temple, donc les annexes, ont été équipés complètement. Nous retrouverons également Epaphroditos au Mons Porphyrites, où il a dédié un temple qui n'a jamais été terminé non plus. Au Mons Claudianus, on serait donc passé d'un projet de temple classique et grandiose, hein, avec une cella centrale, une colonnade de façade, à un sanctuaire beaucoup plus modeste, de type oriental. Enfin, nous verrons par la suite qu'une dans une troisième phase du sanctuaire, on a ajouté la salle haut à fonction oraculaire, mais cette adjonction est nettement plus tardive. À la fin du règne d'Adrien, donc tout ça fonctionne pendant, évidemment, tout le règne de Trajan et d'Adrien, et à la fin du règne d'Adrien et au début de celui d'Antonin, on a cessé de jeter les ordures dans le dépotoir sud qui a complètement recouvert les bâtiments dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont désormais abandonnés, et on commence à jeter les déchets dans le partie ouest du site ici. Des grossiers murs de soutènement ont été établis pour contenir ces déchets, et les ostracas de ces dépotoirs datent des dernières années d'Adrien et du début du règne d'Antonin. Au sud de la route, c'est-à-dire au sud de cet espace qui est là, dans ce secteur-là, le dépotoir s'étend dans une zone où seront par la suite construites les écuries. En général, les déchets sont toujours portés à l'extérieur du fort, sauf dans un cas où on a rempli une pièce, la pièce FW1, à l'intérieur du fort. Donc, une activité très forte qui génère évidemment de grandes masses de déchets, comme vous pouvez le voir, ce sont celles qui livrent les ostracas et toutes les matières organiques, ainsi que la céramique. Mais cette activité considérable a nécessité aussi de réoccuper le site dit de l'Hydrema, où la cinquième phase de mon schéma général est marquée par la construction d'un établissement fortifié tout en longueur, auquel on accédait par un escalier. Alors, vous voyez cet établissement fortifié ici, avec une rampe d'accès et un escalier. L'établissement mesure 35 mètres de longueur par 18 mètres de large et il est caractérisé par une longue allée centrale desservant des pièces d'habitation de part et d'autre. Sur le côté nord, ici, on trouve plusieurs citernes, dont une grande de 4,50 m par 3,50 m et plusieurs citernes plus petites ainsi que deux longs abreuvoirs pour les animaux. L'occupation du fort a provoqué la formation d'un dépotoir dans la partie sud et qui a livré des concentrations de céramique et des alignements d'amphores datés du règne de Trajan ainsi que des ostracas mentionnant l'architecte Apollonios attestés sur le site entre 110 et 114 de notre ère. La construction de cet habitat fortifié daterait donc du règne de Trajan et serait contemporaine du grand fort du Wadi Oumissène. Il s'expliquerait par la phase très active d'extraction que l'on voit à cette époque. Mais l'occupation de cet ensemble, donc de l'hydromain, n'a pas duré très longtemps car le site est proche de carrières qui ont été abandonnées assez vite au profit de celles qui étaient situées aux abords du grand fort. Le pic d'activité des carrières sous Trajan est clairement indiqué par l'usage massif du granit du mont Sclodianus dans le forum de Trajan. Les grandes colonnes de la basilique Ulpienne, que vous voyez ici et sur cette photo, celles des bains et du marché de Trajan proviennent des carrières. La basilique Ulpienne, à elle seule, a demandé plus de 100 colonnes. Les travaux commencèrent en 107 après Jésus-Christ et les monuments furent inaugurés en 112. Vous voyez ici un exemple d'une colonne de granit du mont Sclodianus surmontée par un chapiteau de marbre. L'extraction se poursuivit au cours du règne d'Adrien pour les colonnes du temple du divin Trajan qui ont été retrouvées dans les fouilles du Palazzo della Provincia di Rome et qui sont visitables à l'heure actuelle avec une très très belle présentation. Et encore, dans le Panthéon d'Adrien, où elles sont debout et conservées, vous les voyez ici, ainsi que dans les colonnes du temple de Vénus et de Rome, que nous verrons par la suite, car les travaux ont continué ensuite. Et enfin, Adrien a utilisé le granit du mont Sclodianus à la Villa Adriana à Tivoli, notamment dans ce que l'on appelle l'exèdre, dans la Piazza d'Oro et dans les bains Helio Caminus. Les travaux dans la Villa Adriana sont un peu postérieurs aux autres, surtout à partir de 130. La Piazza d'Oro, par exemple, a été édifiée entre 125 et 133 après Jésus-Christ. On voit donc où vont ces pierres et on comprend bien donc cette augmentation de l'activité et l'augmentation de la zone occupée à cette époque-là. Les travaux d'extraction trouvent d'ailleurs une attestation papyrologique dans un texte de décembre 118 qui mentionne la descente d'une colonne de 50 pieds, c'est-à-dire 18 mètres de hauteur, qui serait destinée soit au Panthéon, soit au temple du divin Trajan. Je vois qu'il est 11h03. On va faire une petite pause avant d'attaquer la phase 6 qui date du milieu du IIe siècle.